Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Nous y voilà. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour votre week-end des experts et c'est parti pour l'auto jusqu'à 10h avant de retrouver évidemment les paris RMC. Jean-Luc Moreau, rebonjour.
Bonjour monsieur François, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs.
Est-ce que vous avez une dashcam sur votre voiture?
Non, je n'ai pas de dashcam. Tiens, on peut peut-être expliquer rapidement ce que c'est qu'une dashcam.
Oui, si vous voulez, c'est une bonne idée.
Voilà.
Alors on en parlera longuement tout à l'heure.
Oui, non, mais c'est une petite caméra qu'on met derrière le pare-brise et qui filme la route.
Exactement. Et qu'il filme de manière perpétuelle.
Exactement, qu'il filme en permanence, mais même d'ailleurs quand la voiture est stationnée, vous verrez. Qui permet de voir, quand François Sorel vient vous faire une grosse rayure sur la portière, on voit bien que c'est lui qui l'a fait.
Que c'est lui qui l'a fait. Quoi qu'avec les masques, en ce moment, on pourrait nous confondre tous les deux.
C'est vrai, si vous mettez un masque et une capuche, ça ne va pas être facile.
Ça va pas être facile.
Et des lunettes noires.
On va retrouver notre bon plan sécurité dans un instant. Qu'est-ce qui change en matière de confinement pour les automobilistes? Notre minute verte, qu'est-ce qui change en matière de normes anti-pollution au 1er janvier 2021? Et puis l'actualité dans le monde de l'automobile tout à l'heure. Maître Rémi Jossoum sera là et avec lui on évoquera le premier volet de ce sujet d'Ashcan.
Exactement, tout l'aspect juridique. Qu'est-ce que ça peut vous apporter en termes de gains? Est-ce qu'il peut
On a un accident, par exemple. Et voilà, il y a,
Une dashcam, mais est-ce que ça vous permet de prouver que vous étiez dans votre bon droit, par exemple? Ou même si vous faites arrêter par les forces de l'ordre qui vous disent.
Est-ce que c'est une preuve?
Vous avez grillé le feu rouge et vous dites, attendez, on va regarder les images. Moi, j'ai pas grillé le feu rouge. Est-ce que ça, c'est recevable?
Voilà. Ça sera la première partie. La deuxième, on vous disait tout à l'heure, comment choisir sa dashcam et quels sont les modèles actuels et combien ça coûte? Tiens, on en parlera avec un porte-parole de chez Pioneer. Notre rendez-vous aussi sur le vif. Comment éviter les arnaques sur les voitures d'occasion pendant la crise du Covid-19?
Ouais, exactement, parce que le marché du neuf, bon, évidemment, a beaucoup baissé cette année, mais en revanche, le marché de l'occasion se porte à merveille. Mmh. D'une part, parce que les gens ont peut-être des budgets qui sont plus resserrés. Donc, comme toujours, dès qu'il y a un marché qui est un peu florissant, tous les escrocs essayent d'en profiter. Donc, on verra qu'il y a des gens qui vont vous aider dans votre démarche d'achat pour éviter justement de se faire arnaquer.
Très bien. Et puis on évoquera les autoroutes et les véhicules électriques. Est-ce que ces voitures électriques vont-elles finir par bloquer les autoroutes?
Vous allez voir, c'est très intéressant. En fait, c'est un auditeur qui a eu plein de petites réflexions. Il m'a envoyé, enfin on s'est vu même quand j'étais à Marseille. Il est venu m'apporter tout un tas de chiffres. Il a fait des études, c'est assez rigolo.
D'accord.
Donc on va voir que même s'il n'y avait que des Tesla donc qui chargent très rapidement... Mmh. Ça pourrait créer quelques embouteillages sur l'autoroute, carrément de bloquer l'autoroute même.
S'il n'y avait que des véhicules électriques.
Ouais, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, vous allez voir, c'est drôle.
7h10, c'est parti pour votre rendez-vous auto. Un bon dimanche avec nous et on attaque bien sûr avec vos questions. Et c'est Cédric qui ouvre le bal en ce dimanche. Bonjour Cédric.
Oui, bonjour. Bonjour,
bonjour Cédric.
Bonjour Cédric de Gironde.
Oui.
Tout va bien Cédric?
Oui.
Vous avez l'air d'être... On vient de vous réveiller, peut-être?
Non, depuis une petite demi-heure, quand même.
Une petite demi-heure, ça va. On dirait Jean-Luc Moreau quand il arrive à la radio, vous savez.
Non, je croyais que vous alliez dire on dirait Jean-Luc Moreau quand il est 10h, ce qui est part de la radio, c'est-à-dire au moment où je me réveille.
Au moment où vous vous réveillez, d'accord. Qu'est-ce qui vous arrive, Cédric?
Il m'arrive pas grand-chose, je vais juste avoir un petit conseil. Donc, j'ai commandé un véhicule au mois de mai.
D'accord.
Il y avait un délai de 9 mois de livraison.
C'était quoi comme voiture?
Alors un Porsche Cayenne coupé hybride turbo.
Ah d'accord. Ah ouais, pas mal, c'est Cédric.
Pas mal, oui.
Voilà. Et donc je voulais repousser cet achat suite aux événements qui se passent en ce moment, financièrement et tout. Bon, voilà, je voulais éventuellement repousser cet achat. Et bon, j'ai signé, mais je regarde jamais les petites lignes, je les regarde toujours après.
Comme tout le monde, ça c'est un vrai gros problème. Personne ne lit dans les contrats ce qui est écrit tout petit en bas. D'ailleurs, personne ne lit les contrats en général. On se contente de signer. Donc, vous avez signé, c'est une commande ferme. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous auriez pu revenir en arrière. Vous avez pris un crédit ou pas ?
Alors, c'est une Elora, oui.
D'accord. Donc, vous auriez pu revenir en arrière au bout de 14 jours. Mais là, malheureusement, le délai est largement dépassé. Donc, la voiture est en commande.
Voilà, donc, c'est ce que j'ai vu dans le contrat. Après coup.
Est-ce que vous êtes allé voir votre concessionnaire ou pas ?
Alors justement, je l'ai appelé parce qu'on devait se rappeler 3-4 mois avant, comme on fait d'habitude. Parce que bon, et du coup, il m'a dit, finalement, elle n'arrive pas au mois de mars, elle arrive au mois de décembre.
Ah, plutôt que prévu, tiens.
Voilà.
Oui. Ah, donc, pour lui, c'était une bonne nouvelle, et quand il vous l'a annoncé, pour vous, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, c'est ça ?
Bon, disons que oui, si, c'est quand même une bonne nouvelle, mais bon, disons que j'aurais voulu éventuellement repousser, mais bon, comme le contrat est signé, c'est très grave, hein, voilà, mais bon.
Non, parce que si vous refusez de... Alors, la seule façon que vous auriez de refuser le véhicule, c'est s'il ne correspondait pas à votre bon de commande. C'est-à-dire, vous avez commandé une voiture jaune, elle arrive, elle est verte, vous n'en prenez pas livraison, ou alors il manque des options. Ça, c'est le seul cas de figure où vous ne prendrez pas livraison de la voiture. Maintenant, après, si vous ne voulez pas de la voiture vraiment, ça vous coûtera, je ne sais pas ce que vous avez versé comme acompte, 10%.
Ouais, j'ai versé 20 000,
Vous allez perdre 20 000 euros, c'est pas terrible, hein. Donc il vaut mieux prendre la voiture, en fait.
Oui, tout à fait. Non, mais voilà, je voulais savoir s'il y avait... Non, mais je vais bien...
Non, la seule solution, c'est effectivement de bien vérifier que le véhicule correspond parfaitement à la commande. Mais en général, chez Porsche, ils sont plutôt sérieux. C'est rare qu'ils vous livrent un véhicule sans les options qui ont été commandées.
Oui, tout à fait. Non, c'est mon deuxième véhicule, donc oui, ils sont très bien, oui.
Ouais. Bon, vous allez. Vous allez vous faire plaisir.
Vous allez être obligé de rouler en Porsche.
C'est ballot, hein.
C'est ballot.
Ouais. C'est ballot. C'est ballot parce que pour même le prix de la compte, vous aviez 200 d'euros neufs. On en parlera tout à l'heure.
Oh, ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Jean-Luc, c'est pas très sympa pour Cédric qui vient de se réveiller en plus.
Sinon je vous la revendrai. C'est pas grave.
Bon, écoutez, je vous la rachète 20 000, alors.
Voilà, c'est ce que j'allais dire au prix d'un compte.
Cédric, juste un petit, pour rigoler, ça coûte combien ce petit joujou ?
Alors, prix final avec option, sans la remise, il pesait 209 000.
Oh !
Et voilà, donc avec la remise commerciale, ils m'ont sorti à 199.
Ah ouais, quand même. Ah, ça pique un peu les yeux.
Ça pique un peu les yeux, quand même, hein.
L'avantage, comme il est hybride rechargeable, vous n'avez pas de malus, c'est déjà ça.
Voilà, c'est un peu le but. Panamera que j'ai, déjà, c'est une hybride aussi. Maintenant, du coup, un peu plus tôt.
Eh oui, donc vous économisez quand même 20 000 euros, hein. c'est pas négligeable.
C'est 10% du prix de la voiture, hein, quand même.
Oui,
Et Cédric, vous avez ce type de véhicule parce que vous faites beaucoup de route, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais.
D'accord. Ok, c'est logique. Logique. Bon, écoutez, voilà.
Mais
c'est vrai que vrai qu'on peut comprendre aussi le...
Non, mais il va y avoir beaucoup de gens qui vont être dans cette situation-là. Les véhicules qui ont été commandés très tôt, ou entre les deux confinements, et puis ceux qui se sont retrouvés, par exemple les commerçants, qui malheureusement ont un chiffre d'affaires qui a beaucoup baissé, ou les chefs d'entreprise qui ont des entreprises qui ont été impactées par la crise.
Après, Cédric a commandé en mai, hein. C'était quasiment à la fin du premier confinement, quand même.
Mais Cédric, c'est une voiture que vous avez commandée, c'est votre société qui paye,
Oui, c'est ma société. Ouais,
d'accord. Oui, donc en fait, vous vouliez reculer parce que vous avez été vous aussi impacté par la crise financière, on va dire ça comme ça. Enfin, la crise sociale, qui est plus une crise sociale que financière d'ailleurs.
Enfin, qu'il est devenu. Oui, mais au départ, c'était pas ça, ouais. Bon, Cédric, voilà.
Voilà, bon, c'est pas très grave, on se fera plaisir pour Noël.
Exactement, oui, c'est ça. Vous nous raconterez.
Oui, pourquoi pas.
Oui, et puis si ça vous plaît pas, on vous en débarrasse pour rien en plus. Alors, donc comme ça, vous voyez.
J'imagine.
Bon dimanche Cédric, merci de nous avoir
appelé. Merci Cédric.
Et à très bientôt. Si tout comme Cédric, vous voulez joindre Jean-Luc, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, à tout moment vous pouvez nous joindre.
Vous avez une vieille Porsche dont vous voulez vous débarrasser, je vous la reprends pour rien.
Pour rien du tout. Non mais vraiment.
Ah ouais, je vous débarrasse gratuitement.
Gratuitement.
C'est quand même sympa.
C'est vrai que vous êtes bon quand même, hein. Ça il n'y a pas à dire. Pas bon à la radio,
Ça se saurait. Je suis le bon samaritain.
Vous êtes
ça que
bon,
vous vouliez dire.
Exactement, vous êtes le bon samaritain. Allez, c'est l'heure de notre bon plan sécurité.
RMC, votre auto.
Hey, Daniel, explique-moi, c'est quoi le plan là ?
Le bon plan sécurité.
Et ce plan génial, messieurs, est signé
Jean-Luc Moreau.
Alors Jean-Luc, aujourd'hui, un bon plan sécurité un peu particulier, puisqu'on va parler des nouvelles mesures de confinement qui sont en vigueur depuis hier. Alors on notera qu'on ne parle pas de déconfinement, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais plutôt d'allègement du confinement. Ça consiste en quoi, tiens ?
Bon, alors la première de ces mesures, c'est que vous pouvez à nouveau vous rendre dans les concessions automobiles pour voir ou pour commander un véhicule. Jusqu'à présent, hein, vous pouviez prendre livraison sur rendez-vous, etc. Mais on ne pouvait pas aller voir les voitures, on ne pouvait pas monter dedans, on ne pouvait pas discuter avec les commerciaux. Ça y est, les showrooms sont de nouveau ouverts, comme n'importe quel commerce près de chez vous d'ailleurs. Vous pouvez aussi vous y rendre en voiture. Alors évidemment, à condition d'avoir son permis. Mais la bonne nouvelle, c'est que les auto-écoles sont également réouvertes.
Ah oui, ça, il est
François,
temps,
vous hein. allez de nouveau pouvoir reprendre des cours de conduite avec l'espoir de pouvoir avoir votre permis bientôt. Oui. Ça serait mieux. Hein.
Parce que c'est vrai que c'est gênant, à force de conduire sans permis.
Ça, c'est vrai.
Je plaisante, hein, bien évidemment. Je plaisante.
Oui.
Oui, non, mais c'est bien ça, on plaisante.
Vous plaisantez, oui.
Bon, alors, il y a aussi un assouplissement de la règle en ce qui concerne la distance, je crois.
Effectivement, hein. En matière de déplacement pour une promenade ou une activité physique, je crois que tout le monde a compris, vous pouvez désormais partir 3 heures dans un rayon de 20 km.
Votre jogging quotidien.
Ouais, en clair, prendre votre voiture. Vous faites votre jogging en voiture, vous, d'ailleurs. Pour vous éloigner chez vous et puis pour aller vous promener dans les bois, par exemple.
Ah, ça, je vous reconnais bien. Est-ce qu'on peut aller faire une promenade en voiture ?
Alors, non. Non, vous
n'avez
pas
le droit. On peut pas aller faire une petite balade.
Ouais, car l'attestation, elle reste obligatoire et dans la nouvelle formule disponible depuis hier, il n'y a pas de case balade en voiture ou à moto. Donc, en revanche, vous pouvez vous rendre, prendre votre véhicule pour aller faire des achats dans les commerces, vous rendre à une consultation médicale, accompagner un enfant à l'école, vous rendre à une convocation judiciaire ou administrative, ce qui est souvent votre cas d'ailleurs, aller dans les services publics ou évidemment vous rendre au travail s'il ne vous est pas possible de télétravailler.
C'est-à-dire que, par exemple, il faut qu'on considère que si on va faire des courses en voiture, c'est ça notre promenade.
Voilà, exactement. Fait. Alors, vous pouvez faire une balade de 3 heures en voiture en prétextant aller faire des courses.
Non, mais
personne ne vérifiera si vous avez des courses dans le coffre.
Oui.
Vous pouvez très bien aller faire des courses, ça peut être le plein d'essence, par exemple.
Exactement. Est-ce qu'on peut, par exemple, lorsqu'on est parisien, Jean-Luc, c'est votre cas, prendre la voiture le week-end pour aller au bord de la mer ?
Alors, pour le moment, non. Les déplacements entre régions restent interdits jusqu'à nouvel ordre. Et même si on est très mauvais en géographie, sans doute votre cas, la mer, c'est à plus de 20 km de Paris. Hein. D'ailleurs, pour connaître ce périmètre dans lequel on a le droit de circuler, le site Géoportail a mis en place un outil automatique. Vous entrez votre adresse et il y a un rayon de 20 km qui est tracé automatiquement autour du point. Précisons que c'est 20 km à vol d'oiseau, c'est pas 20 km sur la route.
Donc c'est un peu mieux, on va dire.
Oui,
on va un petit peu plus loin.
On peut rouler plus longtemps, à moins d'avoir une route toute droite qui part de chez vous.
Ouais, c'est rare.
En bordure du cercle.
Qu'est-ce qu'on risque, Jean-Luc, si on ne respecte pas ces règles ?
Bon, dans un premier temps, c'est toujours la même chose, hein, amende forfaitaire de 135 €, puis en cas de récidive dans les 15 jours, amende forfaitaire de 200 €, et s'il y a 3 infractions en 30 jours, attention, ça pique, hein, c'est un délit, c'est puni d'une amende de 3 750 € et passible de 6 mois d'emprisonnement. Bon, en fait, ça fait peur, mais c'est sur le papier, hein, dans la pratique, les contrôles restent tout de même extrêmement rare, je ne sais pas vous, mais moi j'en ai pas vu un seul jusqu'à présent.
Alors écoutez, non, je n'ai pas eu de contrôle pour ce deuxième confinement.
Ouais. Bon, j'en ai pas vu non plus.
Après, moi j'ai des
paradoxalement
qui ont été contrôlés.
Ouais, paradoxalement, quand il y avait le couvre-feu, j'ai vu 2 grands contrôles, mais depuis que c'est le confinement, j'ai plus vu de contrôle.
Jean-Luc, qu'est-ce qu'on sait quand il sera possible de voyager plus loin ?
Lors de son allocution télévisée, hein, le président Emmanuel Macron a parlé de la date du 15 décembre pour la suppression du périmètre de déplacement et des attestations. Bon, du moins en journée, car il devrait de nouveau y avoir un couvre-feu, on en parlait à l'instant, de 21h à 7h, sauf pour les réveillons du 24 et 31 décembre. C'est vrai que ça aurait été bête de mettre un couvre-feu pour le réveillon.
Ah là, c'est compliqué, c'est clair. 7h21, Jean-Luc, on revient dans un instant. On repartira avec vos questions auto au 32-16. Bien sûr, 32-16, l'appli RMC, Direct Studio. Si vous nous joignez via Direct Studio, n'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone.
RMC, jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Voilà, on est de retour. Le week-end des experts, l'automobile. dans quelques instants notre minute verte. Qu'est-ce qui change en matière de normes anti-pollution au 1er janvier 2021? Vous savez que tous les ans, en général, ça se durcit, ça se corse. On verra.
Ça se corse pas forcément tous les ans, mais ça se corse régulièrement.
Voilà. Et est-ce que ça se corse, là, à partir du 1er janvier 2021?
Ça se corse, hein. Oui.
C'est pas du tout l'accent corse, là, que vous avez fait. C'était...
Oui, c'était plutôt l'accent de Marseille. De rien du tout.
Voilà. Faites attention.
Corse, c'est plus comme ça.
Votre Porsche risque de brûler très rapidement.
J'en ai pas, donc ça tombe bien.
7h25. Allez, on accueille Christophe qui est là. Bonjour Christophe.
Une Porsche, lui, Christophe.
Oui, bonjour.
Bonjour Christophe.
Non, je n'ai pas de Porsche.
Vous n'avez pas une vieille Porsche, désolé, vous voulez vous débarrasser?
On prend que les auditeurs qui ont des Porsches dimanche matin, désolé.
Si Cédric nous entend, il n'y a pas de problème, il peut m'appeler.
D'accord.
Vous lui échangez contre votre 3008, c'est ça?
Oui, exactement.
Ah,
bah il sera gagnant.
Ah, bah forcément, il sera gagnant. Bah, au moins, il achètera français.
Bah voilà. Non, mais vous êtes intéressé par un 3008 hybride rechargeable, c'est ça?
Alors, je suis intéressé, disons que j'ai besoin d'être un petit peu cadré dans ma réflexion.
D'accord.
Parce que je suis un petit peu perdu.
Oula.
Ouais, alors, exactement. Je vous écoute depuis longtemps et c'est vrai que, donc, je suis infirmier libéral, donc, votre infirmier libéral du matin.
Ça y est, c'est plaisir. Ça c'est fait, je coche la case.
Exactement, vous pouvez. Et donc, j'ai un 3008, diesel de 150 chevaux depuis 8 ans, qui me convient très bien. Parce que je fais qu'en gros 120 bornes, très, très urbain quand même, hein, au niveau de tournée, mais par contre, c'est quand même ma voiture familiale. Donc je vais au ski, je pars en vacances avec mes enfants et ma femme. Et donc du coup là, je pensais la finir ma voiture, sauf que là elle commence à couiner pas mal, me coûte un petit peu cher, je suis à 200 000 km. Et donc du coup, je commence à m'orienter un petit peu sur les hybrides rechargeables qui arrivent à flot. Et je me suis orienté sur la 3008 hybride rechargeable, et donc je suis allé voir chez Peugeot il y a un mois. Mais je me pose la question quand même, parce que au vu de la différence de prix entre une essence, un diesel et des hybrides rechargeables, est-ce que c'est vraiment aussi rentable que ça?
Tout dépend de l'usage que vous en avez. Alors, vous avez vu déjà que sur le 3008 hybride rechargeable, il y a deux modèles. Il y a l'hybride 4 en 4 roues motrices, qui est extrêmement puissant, dont on n'a pas forcément besoin, sauf si vous êtes dans une région montagneuse, vous êtes où?
Sur Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Donc, après, je monte au ski, mais il n'y a pas besoin de
Oui. Donc, vous pouvez prendre la version 2 roues motrices, qui est un petit peu plus accessible financièrement, qui offre la même autonomie que l'autre, puisque c'est exactement la même batterie, hein, c'est juste qu'il y a un moteur électrique en moins, c'est tout. C'est intéressant, ça pourrait être intéressant dans votre usage, si effectivement vous pouvez recharger systématiquement tous les jours. Ça c'est vraiment, vous avez vu d'ailleurs, il y a Transport Environnement qui a épinglé les hybrides rechargeables. Alors, j'ai un peu entendu tout et n'importe quoi, on en a parlé la semaine dernière en disant oui, un hybride rechargeable ça pollue plus qu'un véhicule thermique. C'est n'importe quoi, ça pollue pas plus. Il y a un cas de figure où ça pollue plus, c'est le moment où, sur certains hybrides rechargeables, vous pouvez recharger la batterie en roulant. Donc bien évidemment, ça va consommer du carburant en plus, et là ça sera plus polluant qu'un véhicule thermique équivalent. Mais ce cas de figure-là, personne ne l'utilise jamais. C'est vraiment, on l'utilisera quand, dans certaines villes, il sera obligatoire de rouler en électrique, qu'on pourra pas faire autrement, et quand vous serez sur l'autoroute, vous rechargerez la batterie au cas où elle est déchargée. Mais ça n'arrivera pratiquement jamais. Dans tous les autres cas de figure, un hybride rechargeable, ça reste un hybride avant tout. Il sera moins polluant qu'un véhicule thermique. Pourquoi il sera moins polluant? Déjà, parce que, à part sur l'autoroute, vous allez rouler à vitesse constante, où là, effectivement, vous trimballerez une batterie, et là, vous aurez plus d'émissions que le thermique équivalent. Pour tous les autres cas de figure, alors qui fait que de l'autoroute, il n'y a pas grand monde, quand même, mais tous les autres cas de figure, vous serez en hybride, vous allez récupérer l'énergie en décélération, et cette énergie électrique, vous la réutiliserez en accélération, ça vous permettra de baisser la conso. Et il y a un autre paramètre qu'on ne prend pas en compte et qui est très important, c'est qu'un moteur thermique, il est très polluant dans certaines phases de fonctionnement. Et l'ajout d'un moteur électrique permet justement d'éviter que le moteur thermique soit très polluant dans ces phases-là. Qu'est-ce que c'est que très polluant? C'est les particules, c'est les oxydes d'azote. Donc, il aura des émissions polluantes, les vraies, on ne parle pas de CO2 là, qui seront de toute façon en baisse. Donc, dire c'est très polluant, oui, dans certains cas de figure. C'est clair que les constructeurs aujourd'hui profitent de cette niche fiscale qui leur permet d'homologuer ces véhicules avec des émissions de CO2 très basses qui ne correspondent pas à la réalité. On est d'accord que sur l'homologation, il y a un truc qui coince. Mais de dire c'est très polluant et de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est une erreur. Donc dans votre cas, si vous pouvez recharger chez vous tous les jours, ça sera de toute façon plus intéressant qu'un véhicule thermique équivalent. Alors vous allez...
J'entends bien moi la question, la question écologique, je l'entends bien. Par contre, la question économique, se retrouver avec une voiture qui coûte quand même 6 ou 7 000 euros plus cher qu'une essence ou qu'une diesel, est-ce que ça vaut le coup? C'est ça moi, ma question. La question écologique, je l'entends bien. Mais il y a forcément une question économique pour moi. Là.
Oui, alors, non, mais vous avez raison.
Oui, non, mais vous avez raison. La question économique, répondez d'abord à ma question. Est-ce que vous pouvez recharger la voiture tous les jours?
Je peux recharger ma voiture tous les jours.
Bon, ben voilà. À partir du moment où vous pouvez recharger la voiture tous les jours, ce que je vous conseille de faire, sauf si vous démarrez et que vous faites que de la ville au début, vous laissez, vous forcez le fonctionnement hybride. Et là, en fait, l'énergie de la batterie va servir, va être utilisée pour baisser la consommation. Donc vous allez à une consommation réelle, sans doute, de 4 litres au 100 si vous partez tous les matins avec votre batterie rechargée. Bon, avec votre diesel, vous étiez à quoi? 6 litres et demi, 7 litres?
8.
Ouais, 8. Donc, économiquement, ça sera moins cher de rouler
mais pour amortir
en hybride 6, rechargeable.
Euros, vous
mais pour amortir 7000 euros, on est d'accord que ça va être très long. Vous roulez beaucoup quand même.
Bah, je fais 25000 bornes par an.
Ah oui, ouais. Est-ce que vous avez envisagé le tout électrique?
Alors j'ai envisagé le tout électrique. Alors le problème c'est que moi il me faut quand même une voiture. Je réfléchis à tout. Je vais même réfléchir à avoir trois voitures. Vous voyez, une voiture familiale pour partir et une voiture pour électrique pour rouler. Alors le problème c'est que je suis quand même un gros gabarit, disons un gabarit poids lourd. Donc il me faut dire quand même une voiture assez haute et une voiture quand même pas trop grande mais pas trop petite non plus. Donc je suis un peu restreint dans ma recherche. Bah,
un Kia e-Niro, ça vous irait pas?
Et alors, je sais que vous en parlez beaucoup, ce Caniro, mais est-ce qu'il n'est pas trop petit, justement, au niveau coffre, etc. C'est un peu gabarit 2008, quand même.
Non, c'est un petit peu plus gros qu'un 2008. C'est un peu plus gros qu'un 2008. Ça pourrait. Et puis, quand vous partez en vacances, bah, vous louez une voiture, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous qui faites 25 000 km par an, là, si vous faites 25 000 km en électrique, l'électrique, là, pour le coup, vous le rentabilisez super rapidement.
Oui.
Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Ça, c'est le premier truc. Et quand vous partez en vacances, si vous avez besoin d'une voiture plus grande, bah vous louez une voiture pour 15 jours. Et dans tous les cas de figure, quand vous ferez l'addition des deux, ça vous coûtera moins cher. En plus, ça ne vous paierait pas l'assurance toute l'année. Enfin, il faut que tout ça rentre en ligne de compte. Alors après, dans l'équation économique de l'hybride rechargeable par rapport au véhicule thermique, il faut quand même savoir que l'hybride rechargeable vous coûtera moins cher en entretien que votre diesel.
Ouais.
Hein, parce que moins de... À partir du moment où votre moteur tourne moins et qu'il est aidé par le moteur électrique, bon, l'usure est moins rapide. Quand vous êtes en décélération, c'est le moteur électrique qui sert pour le freinage, donc vous n'avez moins d'usure de plaquettes de frein. Enfin, bref, on sait aujourd'hui, avec l'expérience qu'il y a sur les hybrides normaux, on sait qu'une voiture hybride, en matière d'entretien, c'est moins onéreux qu'un véhicule thermique équivalent. Donc il y a cette économie-là qui doit rentrer en ligne de compte aussi. Maintenant, c'est vrai que le différentiel, il est quand même assez important. Il est intéressant pour les entreprises parce qu'il n'y a pas de TVS, parce que fiscalement, c'est très intéressant. Maintenant, dans votre cas particulier à vous, c'est vrai que... la question se pose vraiment. Maintenant, c'est un vrai calcul, il faudrait le poser sur le papier et puis regarder.
Ah, parce que je vous assure que chez Peugeot, le calcul était vite vu. Hein. Quand j'ai parlé du coup, pour partir plutôt sur une essence, alors il m'a regardé avec des gros yeux. Parce que du coup, pour lui, avec les hybrides rechargeables, je vais consommer zéro essence.
Zéro essence, c'est n'importe quoi.
J'ai même gros doute. Donc moi, ouais, le Kia Niro pourrait m'intéresser, mais du coup, ça serait partir quoi sur l'électrique? Alors, par exemple, je pars une semaine au ski. Est-ce que du coup, l'électrique, je peux le laisser? Enfin,
mais il n'y a aucun problème. Mais même, vous partez une semaine au ski, vous avez une famille extrêmement nombreuse.
Non, on est quatre.
Vous partez à quatre dans le Niro. Attendez, ça marche.
Est-ce qu'il faut la recharger cette voiture? C'est ça que je veux dire en fait.
Il vaut mieux, c'est une électrique.
Faut la recharger.
il faut avoir la possibilité, par exemple, de la recharger en station, vous voyez.
Ah oui. Bah, tout dépend à quelle distance vous êtes.
On est à côté, on est à côté, mais.
À côté, c'est quoi?
C'est 150 km.
Je suis à une heure des stations là.
Bah alors,
parce que finalement, quand vous êtes sur place après la voiture, vous la touchez plus.
Non, tout à fait.
Donc en fait, il suffit que vous ayez assez d'énergie pour faire l'aller-retour.
Exactement.
Et ça se calcule, mais franchement,
même sur place,
jouable, hein.
Même sur place, dans les stations de ski, il y a sans doute des borneurs chars.
Oui, hein, oui.
Mais au pire, dans les Hautes-Pyrénées.
Quand même, au pire, s'il y a l'électricité dans les Hautes-Pyrénées, rassurez-moi.
Mais pas partout. Ouais.
D'accord. Non, mais au pire, s'il y en a pas, il faudrait que vous calculiez pour savoir si justement une charge complète vous permettrait d'aller à la station et de revenir.
Ouais, parce que même complètement chargé en côte, il y a 350 bornes d'autonomie sur un Iniro, dans le sens de la montée.
Dans la redescente, vous rechargez la voiture.
Donc c'est pas un souci.
Non, okay. Mais franchement, c'est une option.
C'est une option.
Il faudrait envisager.
Économiquement, c'est la plus intéressante pour vous. Maintenant, ouais. Après, c'est aussi une affaire de goût.
Sans compter après le plaisir de conduite.
Essayez de monter dans un. Alors, je vous vends le Niro pour le moment parce que c'est celui qui est le plus facile à trouver. Il y en a même d'occasion maintenant. Mais l'offre est en train de s'étoffer de façon spectaculaire. Il y en a plein chez Volkswagen, chez même les constructeurs français, quoi.
D'accord, parce que du coup, je reviens aussi chez Toyota, au moins sur Hybrid, mais. Bon, le CHR, bon.
Non, c'est trop petit le CHR.
Ouais, je trouve trop petit. Et le RAV4 est beaucoup trop gros. Donc. Écoutez, je vais regarder ça.
Regardez. Faites un tour avec.
Le Porsche, je suis preneur. Hein.
À 20 000, je pense qu'il va y avoir du monde. Hein.
Si on a 10 auditeurs qui donnent 20 000, c'est bon,
ouais.
Finalement. Enfin, et après, vous partagez la voiture.
Un mois
chacun, ça peut être pas mal. Bon Christophe, à bientôt.
Merci.
Au revoir, Christophe.
Au revoir, merci.
Ah, pour monter au ski, la Porsche, c'est pas mal. Hein.
Ouais, mais même le Niro, attendez. Vous savez quoi ? En montagne, on n'en parle jamais, mais un véhicule électrique va avoir un gros avantage. Parce qu'un véhicule thermique, plus on monte, plus la densité de l'air est faible. Donc, il doit compenser. On perd de la puissance en altitude sur un véhicule thermique. Un véhicule électrique, il perd rien de sa puissance en altitude.
Oui. Non, mais c'est clair. Bon, vous me parlez à moi, mais moi, je suis convaincu. Mais c'est vrai que c'est intéressant. 7h36 sur RMC. Notre minute verte maintenant.
RMC, votre auto.
La minute verte.
Et puis, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous appeler pour poser vos questions, réagir au sujet qu'on évoque. C'est le rendez-vous dédié à l'automobile sur RMC tous les dimanches 7-10, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Alors Jean-Luc, notre minute verte, qu'est-ce qui change en matière de normes anti-pollution au 1er janvier 2021?
Alors, qu'est-ce qui change? Eh bien, vous savez, aujourd'hui, on teste les véhicules sur des bancs. Alors, on va remonter peut-être un petit peu en arrière. Hein, jusqu'au 1er septembre 2017, on avait ce qu'on appelait le cycle NEDC. Je l'ai beaucoup critiqué. Il avait été mis en place en juillet 1973. C'était pour l'homologation. Donc, sur les bancs à rouler, on avait un test qui correspondait pas du tout à la réalité. Il a été remplacé, heureusement, depuis par ce qu'on appelle le WLTP, qui a été conçu au niveau mondial et qui est plus proche d'un usage réel. D'accord. On mesure donc sur le banc à rouleau certains polluants qu'on appelle normalisés. Il y a les fameux oxydes d'azote, les NOx. Il y a les particules qu'on mesure en masse et en nombre. Il y a les hydrocarbures brûlés qu'on mesure et le monoxyde de carbone. Alors ces quatre polluants ont des valeurs qui correspondent à ce qu'on appelle des normes euro. Hein, les normes euro sont de plus en plus sévères. On a démarré à Euro 1, aujourd'hui on est à Euro 6, et au fil des normes, évidemment, il faut que les émissions de ces fameux polluants que je vous ai cités diminuent progressivement.
Ça doit être un vrai défi pour les constructeurs, ça. Hein.
Évidemment que c'est difficile. Sauf qu'on s'est rendu compte, en fait, même sur les normes précédentes, quand on était à Euro 5, par exemple, vous savez, il y a eu, au moment du Dieselgate, on était à Euro 5. On s'est rendu compte que entre les chiffres de laboratoire et les émissions réelles en conduite, on avait un delta qui était parfois de 10. Et même sur certains véhicules, encore plus que ça.
Oula.
Donc on s'est dit, oulala, il y a un truc qui va pas. Donc pour éviter qu'on se retrouve entre un usage dans la réalité et une mesure en laboratoire, qu'on se retrouve avec des gros écarts comme ça, on a décidé de faire des tests de roulage pour l'homologation. Ça s'appelle les tests RDE. C'est Real Driving Emission. Donc, la voiture sera testée en laboratoire et elle sera testée sur route. Sauf que, sur route, les résultats ne sont pas les mêmes qu'en laboratoire, même si le cycle correspond à celui de laboratoire, il faut le préciser quand même. Et là, on s'est retrouvé, quand on a commencé à mesurer les premières voitures, on s'est retrouvé avec des chiffres qui étaient plus élevés que ce qu'on avait en laboratoire, c'était évident. Donc, on s'est dit, OK, on va laisser quand même un petit temps d'adaptation au constructeur. Donc, les normes d'émission en laboratoire restent les mêmes, mais pour le test routier, on va autoriser un dépassement. Alors, le facteur, c'était 2,1, c'est-à-dire qu'on pouvait émettre 2,1 fois plus que ce qu'autorisait la norme. Et à partir, c'est ça qui change là, au 1er janvier, ce facteur redescend à 1,43. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça concerne principalement les NOx, les oxydes d'azote. Mmh. Hein, c'est là qu'il y a le plus de différence entre le laboratoire et l'usage routier. La norme dit on a droit à 60 mg de NOx par kilomètre pour les moteurs essence et 80 mg par kilomètre pour les moteurs diesel. Avant le 1er janvier, c'est-à-dire maintenant, on pouvait émettre pour les moteurs essence 126 mg et 168 mg pour les diesel.
C'était le 2,1 fois de
voilà,
plus.
Voilà, exactement.
D'accord.
Exactement. Là, à partir du 1er janvier, on redescend à 85,8 mg pour les modèles essence et à 114,4 mg pour les diesel.
Donc on ça attaque même... 1,4.
Voilà, exactement.
OK.
Bon, alors ça concerne c'est les diesels qui ont le plus d'écart entre la mesure en laboratoire et la mesure
d'accord.
sur route. Et mine de
encore
rien,
le diesel qui est pointé du doigt.
Bah voilà, mine de rien. Bon, la norme dit 80, on les autorisera encore à 114,4.
Ouais,
mais c'est un sérieux tour de vis.
D'accord.
Pour les constructeurs. Donc tous les véhicules qui, en roulage réel, émettront plus que 114,4 mg à partir du 1er janvier de NOx, ne pourront plus être homologués. Donc ils vont devoir être vendus, il y a plein de voitures. Alors on appelle cette norme Euro 7, on est toujours sur Euro 6, on va faire simple, on l'appelle Euro 6 Full. En fait, elle s'appelle Euro 6 DISC FCM. Enfin bon, voilà.
C'est compliqué leur truc. Hein,
oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, même si on n'a rien compris aux chiffres que j'ai donnés avant, c'est qu'il y a beaucoup de véhicules cette année-là qui sont en stock, qui correspondent à cette norme Euro 6 qu'on appelait temporaire.
La précédente.
Voilà, la précédente.
Norme Euro 6.
Et qui n'auront plus le droit d'être immatriculés après le 1er janvier. Donc ils vont devoir...
C'est sérieux quand même, hein.
Ça veut
dire qu'on interdit d'immatriculer ces véhicules.
Oui, il y aura un petit pourcentage qui pourra être immatriculé.
D'accord.
Et on autorise quand même les constructeurs en immatriculer un petit pourcentage.
Voilà.
Mais aujourd'hui, on estime qu'en Europe, il y a 600 000 voitures qui existent, qui ont été fabriquées.
Qui sont en stock. Qui n'ont pas été vendues.
Exactement. Puisqu'il s'est vendu moins de voitures. Et qui sont dans cette ancienne norme et qui n'auront plus le droit d'être immatriculées au 1er janvier.
Alors, ces voitures, qu'est-ce qui va se passer?
Elles vont être immatriculées en véhicule de démonstration et elles seront vendues comme véhicule d'occasion au-delà du 1er janvier. Donc, ça va être d'excellentes affaires. Parce que, en fait, vous achèterez une voiture neuve.
Oui.
Au prix d'une voiture d'occasion. Donc vous aurez une décote de 25, 30, peut-être 40% même.
Bon, après,
sur certains véhicules.
Ça sera une décote sur un véhicule qui aura peut-être du mal à se revendre parce que justement, elle sera à deux générations la consommation et des normes de pollution,
vous
non?
Vous savez, entre ce que les gens disent en matière d'environnement et ce qu'ils pratiquent dans la réalité, il y a un gros écart. Hein. En général, les gens privilégient quand même le portefeuille avant
d'accord.
de privilégier la pollution. Donc, ils verront la bonne affaire. Savoir si ça pollue un peu plus, je pense pas que ça changera grand-chose dans leur vie. Alors, il y aura aussi, cette norme apporte aussi, alors là, en revanche, un avantage certain pour le consommateur, cette nouvelle norme, c'est que maintenant, les véhicules devront afficher la consommation réelle des voitures. Parce que jusqu'à présent, quand vous mettiez la consommation instantanée ou moyenne, il y avait toujours un écart avec la réalité. La précision n'était pas extrêmement grande. Maintenant, les constructeurs sont obligés d'avoir une consommation qui sera... très proche de la réalité.
Donc c'est un nouvel outil,
c'est un nouveau capteur
qu'il y a dans le carburateur, c'est ça?
Non, alors il n'y a plus de carburateur depuis un petit moment.
Dans les injections,
fait,
c'est quoi? C'est dans quoi?
Oui, en fait, le système global, vous savez, aujourd'hui, c'est d'une complexité terrible. Hein, c'est plusieurs ordinateurs, une voiture. Hein, donc il y aura un algorithme qui sera plus proche de l'usage réel pour vous indiquer la consommation réelle. Il y a des voitures qui le faisaient, mais il y en a qui le faisaient moins bien. On va dire ça comme ça pour être gentil.
7h43, très intéressant Jean-Luc Moreau, bravo, belle explication. On revient.
Mais c'est pas facile de faire simple avec des trucs très compliqués.
Ouais, mais pour vous dire, j'ai compris. Donc
ça c'est bien.
Ça devrait le faire. On revient dans un instant. On repart avec vos questions. Tiens, on aura Xavier qui va nous parler de cette procédure à faire pour la réglementation des filtres à particules pour voitures essence et diesel. On va rentrer dans les détails dans un instant. Et puis, s'il nous reste un petit peu de temps, on retrouvera l'actu de la semaine dans le monde de l'automobile. Merci d'être là. C'est votre tour. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre tour.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
C'est RMC, le week-end des experts, l'automobile, Jean-Luc Moreau. Tout va bien, Jean-Luc, à part la douche.
Impeccable. Bah oui, douche froide ce matin, c'était bien.
Oui, parce que pendant la pub, Jean-Luc, vous nous expliquiez qu'il s'était pris une douche froide, son cumulus, enfin son chauffe, son, comment on appelle ça, son chauffe-eau.
Ouais, chauffe-eau. Ouais.
Son ballon d'eau chaude, comme dirait Christian PC, ouais. Ne marchait plus. Donc voilà. Vous voulez expliquer ce que c'est ? Peut-être qu'il y a un plombier qui pourrait vous aider, non ?
Non, je crois savoir ce que c'est. Je pense que c'est le contacteur qui déclenche le quand on est sur les heures creuses qui ne fonctionne plus.
On peut appeler Christian PC si vous voulez. Hein.
Oui. Bah, s'il peut
dormir.
Bah, voilà. Non, mais écoutez, je ne me laverai pas pendant les 15 prochains jours et puis c'est tout.
Youpi, ça va être bien ça. Allez, on repart avec vos questions au 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Xavier est avec nous.
Bonjour.
Bonjour Xavier.
Bonjour Xavier.
Bonjour François.
Vous n'êtes pas plombier, Xavier ?
Ah, pas du tout, non.
On ne sait jamais.
Je suis parti chercher des croissants pour ma femme, puis je peux vous dire qu'il fait froid. Là, il fait moins 2 dans l'Orne. ça pique.
Ah oui.
Moins 2.
Ah oui, moins 2, oui, ça pique là.
Et tous,
blanc. Ah, oui.
Et tous les dimanches matin, vous allez chercher les croissants pour madame ?
Tout à fait.
Oh là là, c'est beau ça.
Elle a de la chance. Hein.
Alors là, vous savez quoi, mais Xavier, mais vous êtes au top du top. Vraiment. Là, voilà. J'imagine alors, toutes les auditrices là, qui sont là. Qui vous écoutent, elles doivent être impressionnées. C'est bien.
Voilà. Alors, je voulais vous demander, on a eu une émission il y a quelque temps concernant les filtres à particules des voitures. Oui. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on a appris grâce à vous que les filtres à particules pouvaient se boucher. Et si se boucher, la seule solution, c'était soit d'aller chez le garagiste de le changer. Ou alors, comment ça s'appelle, on avait appris qu'il y avait une entreprise qui pouvait, comment ça s'appelle...
Qui font de la régénération, ils nettoient, ils débouchent, entre guillemets, les filtres particules.
Mais aussi, pour éviter tout ça, on pouvait faire du préventif,
oui,
c'est-à-dire de régénérer, comment ça s'appelle, nos filtres à particules.
Oui.
Alors ma question est la suivante, quelle est la procédure, comment on peut faire avec la voiture pour régénérer nos filtres, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il faut faire par mois ou
alors,
par
sur quel type de véhicule? Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des filtres à particules. Bon, sur les diesels, on le sait depuis 2011, mais il y a désormais des filtres à particules. Toutes les voitures Euro 6 essence ont des filtres à particules également. Alors, voilà. C'est moins problématique sur un modèle à essence. Pourquoi? Parce que d'abord... lors de la combustion, un modèle essence va émettre beaucoup moins de particules qu'un modèle diesel. Donc le filtre à particules, il est plus petit, il va se remplir moins rapidement, et surtout, un modèle essence, un véhicule essence, va avoir une température à l'échappement qui est d'environ 500 degrés et qui est suffisante pour régénérer en continu le filtre à particules. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin... Alors, il y a quand même des phases de régénération qui peuvent être prévues sur les filtres à particules essence, mais elles seront beaucoup, beaucoup moins fréquentes que sur un véhicule diesel. Sur un diesel, la température d'échappement n'est pas suffisante en roulage normal pour régénérer le filtre. C'est pour ça qu'on va injecter du carburant en plus après pour brûler les particules qui ont été retenues. Sur un véhicule essence, la température à l'échappement est naturellement assez forte pour faire, comme je vous disais, presque une régénération constante. Il est quand même conseillé pour ceux qui ont des modèles Euro 6 essence d'aller faire de temps en temps un petit coup de décrassage, c'est-à-dire vous faites un coup d'autoroute et c'est largement suffisant pour arriver bien. À bien décrasser le filtre à particules. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins problématique que sur un modèle diesel. Donc c'est, en fait, normalement, on ne devrait pas assister, sauf le cas de figure, la mère qui emmène ses enfants à l'école à 1,5 km de chez elle, qui démarre à froid, qui fait 1,5 km, qui revient, qui va au supermarché, voilà. Donc ça, là, oui, évidemment, même avec un modèle essence, on aura des problèmes. De toute façon, une voiture à moteur thermique, c'est pas fait pour faire 500 mètres, 1 km. C'est fait pour
combien
rouler.
Combien de kilomètres minimum pour une voiture thermique, à votre avis, Jean-Luc ?
Pour que ça commence à chauffer ?
Enfin, pour que la voiture ne s'abîme pas.
Non, mais simplement. C'est plus du temps qu'en fait d'un nombre
temps,
de kilomètres. Hein. Si votre voiture tourne moins de 10 minutes, c'est une hérésie écologique.
Il faut moins
dire ça comme ça,
de
même
10 minutes.
Ouais, une hérésie mécanique.
D'accord.
Oui, si vous 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 servez, voilà, c'est pas,
ça arrive,
ouais, ouais, ça arrive.
C'est la douche,
ouais, c'est ça, la douche froide. Ouais. Si vous vous servez de votre voiture pour faire que des tout petits trajets, bon, c'est terrible, hein. Ça c'est terrible.
Merci beaucoup Xavier. On enchaîne avec Christophe qui est avec nous au 32-16. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour. Vous
bonjour
m'entendez?
Christophe. Oui, Christophe, on vous entend.
Oui, bonjour Maître Sorel, Maître Moreau. Bonjour.
Bon, bah alors Maître Christophe,
écoutez,
alors,
ça fait plaisir Christophe. Vous commencez voilà. Bien.
Alors, j'ai deux petites questions.
Ah, c'est pour possible. Ça. C'est pour voilà, ça que vous nous passez la pommade. Et bien sûr.
Toujours flatté. Mm-hmm. Voilà, en fait, donc je vais vendre mon véhicule. C'est une Dacia Sandero Stepway équipée éthanol. Et je vais la vendre à un particulier. Et je voudrais savoir les démarches administratives. Si barrer la carte grise, vendu le avec l'heure.
Voilà. Et il faut surtout aller sur le site de la NTS et ouais. Dire que vous vendez votre voiture. Vous aurez un code que vous allez transmettre à l'acheteur. Sinon, il ne pourra pas immatriculer sa voiture.
Ah, ça, c'est
d'accord.
Vous
d'accord.
Devez faire cette démarche-là obligatoirement.
D'accord.
Mais vous allez voir, ça s'est amélioré hein, depuis le départ. Au début, il y avait pas mal de bugs sur le système. Là, ce qu'il faut faire surtout, c'est prendre son temps. C'est pas essayer de le faire en 5 minutes. Mm-hmm. Vous prenez votre temps, vous lisez bien. C'est franchement bien expliqué. Et si vous faites dans l'ordre toute la procédure telle qu'on vous demande de la faire, il y aura zéro souci. Vous aurez ce fameux code, vous le transmettez à l'acheteur. Et puis, il pourra immatriculer sa voiture sans problème.
D'accord. Alors après, j'ai une deuxième petite question. Je suis non-voyant, je n'ai pas le permis de conduire,
d'accord.
Et ce véhicule est à mon nom, parce que je l'ai acheté en 2015.
Oui.
D'accord. Depuis 2019.
Ah oui, ben vous êtes maintenant obligé de fournir un permis.
Exactement.
Ah oui.
Donc c'est-à-dire que si j'étais pas marié, si j'avais pas ma femme.
Vous pourriez pas immatriculer la voiture, de nouvelles voitures à votre nom.
Donc c'est-à-dire je perds un droit.
Mais malheureusement. Physique. Et vous êtes victime là de pas mal de gens qui immatriculaient des voitures au nom de leur enfant ou de leur grand-mère qui avait pas le permis puisque c'était autorisé. Et donc évidemment quand il y a des PV qui arrivaient, on pouvait pas leur retirer de temps puisqu'ils n'avaient pas de permis de conduire.
C'est pour ça que j'ai fait ça. Hein. Voilà,
oui. Donc malheureusement aujourd'hui la voiture devra la carte grise. Alors le titre de propriété, attention, hein, c'est pas la carte grise. Hein.
Pas
vous
la carte
pouvez
grise,
très bien acheter la voiture à votre nom et la faire immatriculer au nom de votre femme.
Madame.
Voilà. Donc, tu auras juste écrit que sur la carte grise, elle n'est pas le propriétaire du véhicule, c'est tout.
D'accord.
Voilà, mais vous pouvez faire ça. Mais d'accord. Vous êtes obligé maintenant, effectivement, de fournir un permis qui correspond à la catégorie du véhicule que vous achetez, voilà. C'est obligatoire.
Donc, maintenant, je suis non-voyant, mais je ne peux plus conduire.
Voilà. Bah ouais. Alors, mais bon, là, comme vous vendez votre Sandero, votre femme sera ravie. Vous allez écouter l'essai de la semaine tout à l'heure. C'est la nouvelle Sandero Stepway. Et franchement, what else, hein? Il y a rien besoin d'aller chercher d'autre. Hein. C'est la voiture idéale.
Vous imitez Georges Clooney maintenant.
Mais non, mais je double Georges Clooney dans beaucoup de films. En fait.
C'est vrai.
Ouais, ouais.
Mais vocalement.
Oui, mais non, mais oui, Georges Clooney-esque en fait, moi.
merci en tout cas Christophe pour votre appel. 8h05, l'actu de la semaine dans le monde de l'auto. Les forces de l'ordre vont rouler en Peugeot 5008.
Ouais, on serait presque tenté de dire qu'ils ont de la chance, nos policiers et nos gendarmes, hein, puisque le ministère de l'Intérieur vient de commander 1263 exemplaires du grand SUV de Peugeot. Ce qui est intéressant, c'est que cette variante à 5 places n'est plus dotée d'un moteur diesel, mais d'un moteur essence PureTech 130 chevaux. Il laisse tomber le diesel.
Ça, c'est bien, bravo.
Ouais, bravo, oui.
Alors, évidemment, l'une des informations de la semaine, c'est la mort du footballeur Diego Maradona. Mais quel rapport avec notre rendez-vous auto, Jean-Luc?
Eh ben, alors, ceux qui ont admiré le footballeur savent sans doute moins que c'était aussi un grand amateur d'automobile, hein. Au goût plutôt éclectique. François, vous aviez un point commun avec lui, d'ailleurs. C'est qu'il aimait la
Renault. Au foot comme lui.
Non. Pas non. Tout à fait, je pense pas.
Non.
Non, il jouait pas si mal que ça, Maradona. Non, vous aviez un point commun, c'est qu'il aimait la Renault Fuego. Il en a même possédé une. Hein.
Non, c'est pas vrai.
Si, une version GTA Max qu'on n'a pas eu en Europe, hein, avec un moteur 2 litres 2 retravaillé, avec une puissance, mais alors presque faramineux, 123 chevaux.
Mon Dieu.
C'est 9 chevaux de moins qu'une turbo, mais 7 de plus qu'une GTA normale. C'était la plus rapide des Renault sud-américaines. Elle faisait la fierté des Argentins. Alors, pour ce qui me concerne, on a aussi un point commun avec Maradona, c'est qu'il avait des goûts. Alors un peu plus raffiné que la Fuego, il aimait les Ferrari noirs, voilà.
Comme vous.
Voilà, comme moi.
D'accord.
Exactement.
Et c'est Fuego, elle se vendait beaucoup.
Oui, c'est une voiture qui était extrêmement populaire. Même quand elle a été arrêtée en Europe, elle continuait à être fabriquée en Argentine.
C'est étonnant, ça. Hein.
Ouais.
Porsche bat un record, Jean-Luc, de l'inutile.
Ouais, vous savez sans doute ce que c'est que le drift, François.
Oui, c'est le.
Ouais, c'est le fait de rouler en dérapage le plus longtemps possible. Bon, alors le constructeur allemand s'est attaqué à un record du genre avec la Taycan. La Taycan, c'est sa berline 100% électrique. Sur une piste circulaire qui était mouillée pour l'occasion, la voiture a tourné 55 minutes, soit 210 tours ou 42,171 km en dérapage. Un record du monde, hein, qui, s'il ne fait pas avancer le Schmilblick, a au moins l'intérêt de produire des images spectaculaires qu'on peut voir sur le site internet de Porsche. Je vous conseille d'aller voir, c'est assez rigolo d'ailleurs.
55 minutes ?
Ouais, 55 minutes en dérapage.
Ouais. Bon, ça ne sert pas à grand-chose.
Non, ça ne sert à rien du tout. Je vous dis juste à faire des super belles images. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le pilote explique quand même que c'est plus simple de faire du drift avec une voiture électrique qu'avec une voiture thermique.
Oui.
Eh oui, parce qu'on a le couple instantané, donc il explique. Petit coup d'accélérateur, et ensuite, on maintient très facilement la voiture. Beaucoup plus facilement qu'avec une voiture thermique.
C'est rigolo.
Donc, bientôt, on aura tous ceux qui font du drift avec les voitures, ils vont se jeter sur les voitures électriques. Évidemment, il faut que ce soit une propulsion. Là, c'était le prototype de la Taycan, parce que autrement, elle est 4 roues motrices, donc ça marche pas. Donc là, elle était en propulsion.
Jean-Luc, il est bientôt 8h. On va revenir dans quelques instants. Maître Rémi Jossomme sera là. On va évoquer la dashcam, vous savez, ces petites caméras qu'on installe sur le rétroviseur de son véhicule. Avantages et inconvénients, mais juridiquement parlant. Voilà. Est-ce que finalement ça nous sert ?
Ça peut vous servir à prouver votre bonne foi ?
Ou est-ce que ça peut nous desservir ? Tiens,
oui. Est-ce que les forces de l'ordre peuvent saisir les images pour voir à quelle vitesse vous rouliez, par exemple ?
Et puis là, c'est de la semaine tout à l'heure. Toujours entre 8h et 9h, ce sera la nouvelle Dacia Sandero Stepway Eco 100G qui, visiblement, serait probablement l'une des meilleures voitures de l'année. Mais Jean-Luc va nous confirmer tout ça. 32-16, le standard. Amina vous attend. L'appli RMC Direct Studio. Vous pouvez nous laisser votre question avec votre numéro de téléphone. À tout de suite.
RMC.
Le week-end des experts.